Chapitre 10. L'amour du baron et celui de Crevel était néanmoins une rude charge pour Valérie. Le jour où le récit de ce drame recommence, excitée par l'un de ces événements qui font dans la vie l'office de la cloche au cou de laquelle s'amassent les essaims, Valérie était montée chez Lisbeth pour s'y livrer à ses bonnes élégies, longuement parlées, espèces de cigarettes fumées à coups de langue, par lesquelles les femmes endorment les petites misères de leur vie. « Lisbeth, mon amour, ce matin, 2 heures de Crevel à faire, c'est bien assommant. Oh, comme je voudrais pouvoir t'y envoyer à ma place !»« Malheureusement, cela ne se peut pas, » dit Lisbeth en souriant. « Je mourrai vierge. »« Être à ces deux vieillards, il y a des moments où j'ai honte de moi. Ah, si ma pauvre mère me voyait !» « Tu me prends pour Crevel, » répondit Lisbeth. « Dis-moi, ma chère petite bête, tu ne me méprises pas ?»« Ah, si j'étais jolie, en aurais-je eu des aventures ?» s'écria Lisbeth. « Te voilà justifiée. »« Mais tu n'aurais écouté que ton cœur, » dit Madame Marneff en soupirant. « Bah !» répondit Lisbeth. « Marneff est un mort qu'on a oublié d'enterrer. Le baron est comme ton mari. Crevel est ton adorateur. Je te vois, comme toutes les femmes, parfaitement en règle. »
« Non, ce n'est pas là, chère adorable fille, d'où vient la douleur. Tu ne veux pas m'entendre. »«
Oh, si !» s'écria la Lorraine. « Car le sous-entendu fait partie de ma vengeance. Que veux-tu? J'y travaille. »
Aimer Venceslas à en maigrir et ne pouvoir réussir à le voir, dit Valérie en se détirant les bras.
Hulot lui propose de venir dîner ici, mon artiste refuse. Il ne se sait pas idolâtrer, ce monstre d'homme. Qu'est-ce que sa femme? De la jolie chair. Oui, elle est belle, mais moi, je me sens, je suis pire.
Sois tranquille, ma petite fille, il viendra,
dit Lisbeth du ton dont parlent les nourrices aux enfants qui s'impatientent. « Je le veux. »«
Mais quand ?»«
Peut-être cette semaine. »«
Laisse-moi t'embrasser. »
Comme on le voit, ces deux femmes n'en faisaient qu'une. Toutes les actions de Valérie, même les plus étourdies, ses plaisirs, ses bouderies, se décidaient après de mûres délibérations entre elles. Lisbeth, étrangement émue de cette vie de courtisane, conseillait Valérie en tout, et poursuivait le cours de ses vengeances avec une impitoyable logique. Elle adorait d'ailleurs Valérie. Elle en avait fait sa fille, son amie, son amour. Elle trouvait en elle l'obéissance des créoles, la mollesse de la voluptueuse. Elle babillait avec elle tous les matins, avec bien plus de plaisir qu'avec Venceslas. Elle pouvait rire de leur commune malice, de la sottise des hommes, et recompter ensemble les intérêts grossissants de leurs trésors respectifs. Lisbeth avait d'ailleurs rencontré, dans son entreprise et dans son amitié nouvelle, une pâture à son activité bien autrement abondante que dans son amour insensé pour Venceslas. Les jouissances de la haine satisfaite sont les plus ardentes, les plus fortes au cœur. L'amour est en quelque sorte l'or, et la haine est le fer de cette mine à sentiments qui gît en nous. Enfin, Valérie offrait dans toute sa gloire à Lisbeth cette beauté qu'elle adorait, comme on adore tout ce qu'on ne possède pas, beauté bien plus maniable que celle de Venceslas, qui pour elle avait toujours été froid et insensible. Après bientôt 3 ans, Lisbeth commençait à voir les progrès de la sape souterraine à laquelle elle consumait sa vie et dévouait son intelligence. Lisbeth pensait, Madame Marneff agissait. Madame Marneff était la hache, Lisbeth était la main qui la manie, et la main démolissait à coups pressés cette famille qui de jour en jour lui devenait plus odieuse, car on hait de plus en plus, comme on aime tous les jours davantage quand on aime. L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent par eux-mêmes, mais des deux, la haine a la vie la plus longue. L'amour a pour borne des forces limitées, il tient ses pouvoirs de la vie et de la prodigalité. La haine ressemble à la mort, à l'avarice. Elle est en quelque sorte une abstraction active, au-dessus des êtres et des choses. Lisbeth, entrée dans l'existence qui lui était propre, y déployait toutes ses facultés. Elle régnait à la manière des jésuites, en puissance occulte. Aussi la dégénérescence de sa personne était-elle complète. Sa figure resplendissait. Lisbeth rêvait d'être Madame la maréchale Hulot. Cette scène, où les deux amis se disaient crûment leurs moindres pensées sans prendre de détour dans l'expression, avait lieu précisément au retour de la halle, où Lisbeth était allée préparer les éléments d'un dîner fin. Marneffe, qui convoitait la place de Monsieur Coquet, le recevait avec la vertueuse Madame Coquet, et Valérie espérait faire traiter de la démission du chef de bureau par Hulot le soir même. Lisbeth s'habillait pour se rendre chez la baronne, où elle dînait. « Tu nous reviendras pour servir le thé, ma bête ?» dit Valérie. « Je l'espère. »« Comment tu l'espères ? En serais-tu venue accoucher avec Adeline pour boire ses larmes pendant qu'elle dort ?»« Si cela se pouvait, » répondit Lisbeth en riant, « je ne dirais pas non. Elle expie son bonheur. Je suis heureuse. Je me souviens de mon enfance. Chacun son tour. Elle sera dans la boue, et moi, je serai comtesse de Pforzheim. » Lisbeth se dirigea vers la rue Plumet, où elle allait depuis quelque temps comme on va au spectacle, pour s'y repaître d'émotion. L'appartement choisi par Hulot pour sa femme consistait en une grande et vaste antichambre, un salon et une chambre à coucher avec cabinet de toilette. La salle à manger était latéralement contiguë au salon. Deux chambres de domestiques et une cuisine, situées au troisième étage, complétaient ce logement, digne encore d'un conseiller d'État directeur à la guerre. L'hôtel, la cour et l'escalier étaient majestueux. La baronne, obligée de meubler son salon, sa chambre et sa salle à manger avec les reliques de sa splendeur, avait pris le meilleur dans les débris de l'hôtel rue de l'Université. La pauvre femme aimait d'ailleurs ces muets témoins de son bonheur, qui pour elle avaient une éloquence quasi consolante. Elle entrevoyait dans ses souvenirs des fleurs comme elle voyait sur ses tapis des rosaces, à peine visibles pour les autres. En entrant dans la vaste antichambre, où 12 chaises, un baromètre et un grand poêle, de longs rideaux en calicot blanc bordés de rouge, rappelaient les affreuses antichambres des ministères, le cœur se serrait. On pressentait la solitude dans laquelle vivait cette femme. La douleur, de même que le plaisir, se fait une atmosphère. Au premier coup d'œil jeté sur un intérieur, on sait qui y règne, de l'amour ou du désespoir. On trouvait Adeline dans une immense chambre à coucher, meublée des beaux meubles de Jacob Desmalter, en acajou moucheté garni des ornements de l'Empire. Ces bronzes qui ont trouvé le moyen d'être plus froids que les cuivres de Louis XVI. Et l'on frissonnait en voyant cette femme assise sur un fauteuil romain, devant les sphinx d'une travailleuse, ayant perdu ses couleurs, affectant une gaieté aimanteuse, conservant son air impérial, comme elle savait conserver la robe de velours bleu qu'elle mettait chez elle. Cette âme fière soutenait le corps et maintenait la beauté. La baronne, à la fin de la première année de son exil dans cet appartement, avait mesuré le malheur dans toute son étendue. En me reléguant là, mon Hector m'a fait la vie encore plus belle qu'elle ne devait l'être pour une simple paysanne, se dit-elle. Il me veut ainsi, que sa volonté soit faite. Je suis la baronne Hulot, la belle sœur d'un maréchal de France. Je n'ai pas commis la moindre faute. Mes deux enfants sont établis. Je puis attendre la mort, enveloppée dans les voiles immaculées de ma pureté d'épouse, dans le crêpe de mon bonheur évanoui. Le portrait de Hulot, peint par Robert Lefebvre en 1810, dans l'uniforme de commissaire ordonnateur de la garde impériale, s'étalait au-dessus de la travailleuse, où, à l'annonce d'une visite, Adeline serrait une imitation de Jésus-Christ, sa lecture habituelle. Cette Madeleine irréprochable écoutait aussi la voix de l'Esprit-Saint dans son désert. « Mariette, ma fille, » dit Lisbeth à la cuisinière qui vint lui ouvrir la porte, « comment va ma bonne Adeline ?»« Oh bien, en apparence, mademoiselle, mais entre nous,
Si elle persiste dans ses idées, elle se tuera, dit Mariette à l'oreille de Lisbeth. Vraiment, vous devriez l'engager à vivre mieux. D'hier, madame m'a dit de lui donner le matin pour 2 sous de lait et un petit pain 1 sou, de lui servir à dîner, soit un hareng, soit un peu de veau froid, en faisant cuire 1 livre pour la semaine. Bien entendu, lorsqu'elle dînera seule ici. Elle ne veut ne dépenser que 10 sous par jour pour sa nourriture. Cela n'est pas raisonnable. Si je parlais de ce beau projet à monsieur le maréchal, il pourrait se brouiller avec monsieur le baron et le déshériter, au lieu que vous, qui êtes si bonne et si fine, vous saurez arranger les choses. « Eh bien, pourquoi ne vous adressez-vous pas à mon cousin ?» dit Lisbeth. « Ah, ma chère demoiselle, il y a environ 20 à 25 jours qu'il n'est venu, enfin tout le temps que nous sommes restés sans vous voir. D'ailleurs, madame m'a défendu, sous peine de renvoi, de jamais demander de l'argent à monsieur. Mais quant à de la peine... Ah, la pauvre madame en a eu. C'est la première fois que monsieur l'oublie si longtemps. Chaque fois qu'on sonnait, elle s'élançait à la fenêtre. Mais depuis 5 jours, elle ne quitte plus son fauteuil. Elle lit. Chaque fois qu'elle va chez madame la comtesse, elle me dit « Mariette, qu'elle dit, si monsieur vient, dites que je suis dans la maison et envoyez-moi le portier. Il aura sa course bien payée. » « Pauvre cousine, dit Bette. Cela me fend le cœur. Je parle d'elle à mon cousin tous les jours. Que voulez-vous ? Il dit, « Tu as raison, Bette, je suis un misérable. Ma femme est un ange et je suis un monstre. J'irai demain. » Et il reste chez madame Marneffe. Cette femme le ruine et il l'adore. Il ne vit que près d'elle. Moi, je fais ce que je peux. Si je n'étais pas là, si je n'avais pas avec moi Mathurine, le baron aurait dépensé le double. Et comme il n'a presque plus rien, il se serait déjà peut-être brûlé la cervelle. Eh bien, Mariette, voyez-vous, Adeline mourrait de la mort de son mari, j'en suis sûre. Au moins, je tâche de nouer là les deux bouts et d'empêcher que mon cousin ne mange trop d'argent. Ah, c'est ce que dit la pauvre madame. Elle connaît bien ses obligations envers vous, répondit Mariette. Elle disait vous avoir pendant longtemps mal jugé. Ah, fit Lisbeth. Elle ne vous a pas dit autre chose ? Non, mademoiselle. Si vous voulez lui faire plaisir, parlez-lui de monsieur. Elle vous trouve heureuse de le voir tous les jours. Est-elle seule ? Faites excuse, le maréchal y est. Oh, il vient tous les jours, et elle lui dit toujours qu'elle a vu monsieur le matin, qu'il rentre la nuit fort tard. Et y a-t-il un bon dîner aujourd'hui ? Demanda Bette. Mariette hésitait à répondre. Elle soutenait mal le regard de la Lorraine, quand la porte du salon s'ouvrit, et le maréchal Hulot sortit si précipitamment qu'il salua Bette sans la regarder et laissa tomber des papiers. Bette ramassa ses papiers et courut dans l'escalier, car il était inutile de crier après un sourd, mais elle s'y prit de manière à ne pas pouvoir rejoindre le maréchal. Elle revint et lut furtivement ce qui suit, écrit au crayon. « Mon cher frère, mon mari m'a donné l'argent de la dépense pour le trimestre, mais ma fille Hortense en a eu si grand besoin que je lui ai prêté la somme entière, qui suffisait à peine à sortir d'embarras. Pouvez-vous me prêter quelques 100 francs, car je ne veux pas redemander de l'argent à Hector. Un reproche de lui me ferait trop de peine. » Ah, pensa Lisbeth, pour qu'elle ait fait plier à ce point son orgueil, dans quelle extrémité se trouve-t-elle donc ? Lisbeth entra, surprit Adeline en pleurs, et lui sauta au cou. « Adeline, Adeline, ma chère enfant, je sais tout !» dit la cousine Bette. « Tiens, le maréchal a laissé tomber ce papier, tant il était troublé, car il courait comme un lévrier. Cet affreux Hector ne t'a pas donné d'argent depuis ?»« Il m'en donne fort exactement, » répondit la baronne. « Mais Hortense en a eu besoin et... » « Et tu n'avais pas de quoi nous donner à dîner, » dit Bette en interrompant sa cousine. « Maintenant, je comprends l'air embarrassé de Mariette, à qui je parlais de la soupe. Tu fais l'enfant, Adeline. Tiens, laisse-moi te donner mes économies. »«
Merci, ma bonne Bette, » répondit Adeline en essuyant une larme. « Cette petite gêne n'est que momentanée, et j'ai pourvu à l'avenir.
Mes dépenses seront désormais de 2 400 francs par an, y compris le loyer, et je les aurai. Surtout, bête, pas un mot à Hector. Va-t-il bien ?
Oh, comme le pont neuf ! Il est gai comme un pinson. Il ne pense qu'à sa sorcière de Valérie.
Madame Hulot regardait un grand pin argenté qui se trouvait dans le champ de sa fenêtre. Élisabeth ne put rien lire de ce que pouvaient exprimer les yeux de sa cousine.
« Lui as-tu dit que c'était le jour où nous dînions tous ici ?»«
Oui, mais bah ! Madame Marneffe donne un grand dîner. Elle espère traiter de la démission de Monsieur Coquet. Et cela passe avant tout. Tiens, Adeline, écoute-moi. Tu connais mon caractère féroce à l'endroit de l'indépendance. Ton mari, ma chère, te ruinera certainement. J'ai cru pouvoir vous être utile à tous chez cette femme, mais c'est une créature d'une dépravation sans bornes. Elle obtiendra de ton mari des choses à le mettre dans le cas de vous déshonorer tous. »
Adeline fit le mouvement d'une personne qui reçoit un coup de poignard dans le cœur.
« Mais, ma chère Adeline, j'en suis sûre, il faut bien que j'essaie de t'éclairer. Eh bien, songeons à l'avenir. Le maréchal est vieux, mais il ira loin. Il a un beau traitement. Sa veuve, s'il mourait, aurait une pension de 6 000 francs. Avec cette somme, moi, je me chargerai de vous faire vivre tous. Use de ton influence sur le bonhomme pour nous marier. Ce n'est pas pour être Madame la Maréchale. Je me soucie de ses sœurs nettes comme de la conscience de Madame Marneffe. Mais vous aurez tous du pain. Je vois qu'Hortense en manque, puisque tu lui donnes le tien. »
Le maréchal se montra. Le vieux soldat avait fait si rapidement la course qu'il s'essuyait le front avec son foulard.
« J'ai remis 2 000 francs à Mariette, » dit-il à l'oreille de sa belle-sœur.
Adeline rougit jusque dans la racine de ses cheveux. Deux larmes bordèrent ses cils encore longs, et elle pressa silencieusement la main du vieillard, dont la physionomie exprimait le bonheur d'un amant heureux.
« Je voulais, Adeline, vous faire avec cette somme un cadeau, » dit-il en continuant. « Au lieu de me la rendre, vous choisirez vous-même ce qui vous plaira le mieux. »
Il vint prendre la main que lui tendit Lisbeth, et il la baisa, tant il était distrait par son plaisir.
« Cela promet, » dit Adeline à Lisbeth, en souriant autant qu'elle pouvait sourire.
En ce moment, Hulot jeune et sa femme arrivèrent.
« Mon frère dîne avec nous ?»
demanda le maréchal d'un ton bref. Adeline prit un crayon et mit sur un petit carré de papier ces mots.
« Je l'attends, il m'a promis ce matin de dîner ici, mais s'il ne venait pas, le maréchal l'aurait retenu, car il est accablé d'affaires. »
Et elle présenta le papier. Elle avait inventé ce mode de conversation pour le maréchal, et une provision de petits carrés de papier était placée avec un crayon sur sa travailleuse.
« Je sais, » répondit le maréchal, « il est accablé de travail à cause de l'Algérie. »
Hortense et Venceslas entrèrent en ce moment, et en voyant sa famille autour d'elle, la baronne reporta sur le maréchal un regard dont la signification ne fut comprise que par Lisbeth. Le bonheur avait considérablement embelli l'artiste, adoré par sa femme et cajolé par le monde. Sa figure était devenue presque pleine, sa taille élégante faisait ressortir les avantages que le sang donne à tous les vrais gentilshommes. Sa gloire prématurée, son importance, les éloges trompeurs que le monde jette aux artistes, comme on se dit bonjour ou comme on parle du temps, lui donnaient cette conscience de sa valeur qui dégénère en fatuité quand le talent s'en va. La croix de la Légion d'honneur complétait à ses propres yeux le grand homme qu'il croyait être. Après 3 ans de mariage, Hortense était avec son mari comme un chien avec son maître. Elle répondait à tous ses mouvements par un regard qui ressemblait à une interrogation. Elle tenait toujours les yeux sur lui, comme un avare sur son trésor. Elle attendrissait par son abnégation admiratrice. On reconnaissait en elle le génie et les conseils de sa mère. Sa beauté, toujours la même, était alors altérée, poétiquement d'ailleurs, par les ombres douces d'une mélancolie cachée. En voyant entrer sa cousine, Lisbeth pensa que la plainte, contenue pendant longtemps, allait rompre la faible enveloppe de la discrétion. Lisbeth, dès les premiers jours de la lune de miel,
avait jugé que le jeune ménage avait de trop petits revenus pour une si grande passion. Hortense, en embrassant sa mère, échangea de bouche à oreille et de cœur à cœur quelques phrases dont le secret fut trahi pour Bette par leur hochement de tête. « Adeline va comme moi travailler pour vivre, » pensa la cousine Bette. « Je veux qu'elle me mette au courant de ce qu'elle fera. Ses jolis doigts sauront donc enfin, comme les miens, ce que c'est que le travail forcé. » À 6 heures, la famille passa dans la salle à manger. Le couvert d'Hector était mis. « Laissez-le, » dit la baronne à Mariette. « Monsieur vient quelquefois tard. »« Oh, mon père viendra, » dit Hulot-fils à sa mère. « Il me l'a promis à la chambre en nous quittant. » Lisbeth, de même qu'une araignée au centre de sa toile, observait toutes les physionomies. Après avoir vu naître Hortense et Victorin, leurs figures étaient pour elle comme des glaces, à travers lesquelles elle lisait dans ses jeunes âmes. Or, à certains regards jetés à la dérobée par Victorin sur sa mère, elle reconnut quelque malheur près de fondre sur Adeline et que Victorin hésitait à révéler. Le jeune et célèbre avocat était triste en dedans. Sa profonde vénération pour sa mère éclatait dans la douleur avec laquelle il la contemplait. Hortense, elle, était évidemment occupée de ses propres chagrins, et depuis 15 jours, Lisbeth savait qu'elle éprouvait les premières inquiétudes que le manque d'argent cause aux gens probes, aux jeunes femmes à qui la vie a toujours souri et qui déguisent leurs angoisses. Aussi, dès le premier moment, la cousine Bette devina-t-elle que la mère n'avait rien donné à sa fille. La délicate Adeline était donc descendue aux fallacieuses paroles que le besoin suggère aux emprunteurs. La préoccupation d'Hortense, celle de son frère, la profonde mélancolie de la baronne, rendirent le dîner triste, surtout si l'on se représente le froid que jetait déjà la surdité du vieux maréchal. 3 personnes animaient la scène, Lisbeth, Célestine et Wenceslas. L'amour d'Hortense avait développé chez l'artiste l'animation polonaise, cette vivacité d'esprit gascon, cette aimable turbulence qui distingue ces Français du Nord. Sa situation d'esprit, sa physionomie, disait assez qu'il se croyait en lui-même et que la pauvre Hortense, fidèle au conseil de sa mère, lui cachait tous les tourments domestiques. « Tu dois être bien heureuse, » dit Lisbeth à sa petite cousine en sortant de table. « Ta maman t'a tiré d'affaire en te donnant son argent. »«
Maman ?» répondit Hortense, étonnée. « Oh, pauvre maman, moi qui pour elle voudrais en faire de l'argent. Tu ne sais pas, Lisbeth. Eh bien, j'ai le soupçon affreux qu'elle travaille en secret. »
On traversait alors le grand salon obscur, sans flambeau, en suivant Mariette qui portait la lampe de la salle à manger dans la chambre à coucher d'Adeline. En ce moment, Victorin toucha le bras de Lisbeth et d'Hortense. Toutes deux comprenant la signification de ce geste, laissèrent Wenceslas, Célestine, le maréchal et la baronne aller dans la chambre à coucher et restèrent groupés à l'embrasure d'une fenêtre. « Qu'y a-t-il, Victorin ?» dit Lisbeth. « Je parie que c'est quelque désastre causé par ton père. »
« Hélas, oui, » répondit Victorin. « Un usurier nommé Vauvinet a pour 60 000 francs de lettres de change de mon père et veut le poursuivre. J'ai voulu parler de cette déplorable affaire à mon père à la chambre. Il n'a pas voulu me comprendre. Il m'a presque évité. Faut-il prévenir notre mère ?»«
Non, non, » dit Lisbeth. « Elle a trop de chagrin. Tu lui donnerais le coup de la mort. Il faut la ménager. Vous ne savez pas où elle en est. Sans votre oncle, vous n'eussiez pas trouvé de dîner ici aujourd'hui. »
« Oh, mon Dieu, Victorin, nous sommes des monstres !» dit Hortense à son frère. « Lisbeth nous apprend ce que nous aurions dû deviner. Mon dîner m'étouffe !»
Hortense n'acheva pas. Elle mit son mouchoir sur sa bouche pour prévenir l'éclat d'un sanglot. Elle pleurait. « J'ai dit à ce Vauvinet de venir me voir demain, » reprit Victorin en continuant. « Mais se contentera-t-il de ma garantie hypothécaire ?
Je ne le crois pas. Ces gens-là veulent de l'argent comptant pour en faire suer des comptes usuraires.
Vendons notre rente, dit Lisbeth à Hortense.
Qu'est-ce que ce serait, 15 ou 16 000 francs, répliqua Victorin. Il en faut 60.
Chère cousine, s'écria Hortense en embrassant Lisbeth avec l'enthousiasme d'un cœur pur.
Non, Lisbeth, gardez votre petite fortune, dit Victorin après avoir serré la main de la Lorraine. Je verrai demain ce que cet homme a dans son sac. Si ma femme y consent, je saurai l'empêcher, retarder les poursuites. Car voir attaquer la considération de mon père, ce serait affreux. Que dirait le ministre de la guerre? Les appointements de mon père, engagés depuis 3 ans, ne seront libres qu'au mois de décembre. On ne peut donc pas les offrir en garantie. Ce Vauvinet a renouvelé 11 fois les lettres de change. Ainsi, jugez les sommes que mon père a payées en intérêt. Il faut fermer ce gouffre.
Si Madame Marneffe pouvait le quitter, dit Hortense avec amertume.
Ah, Dieu nous en préserve, dit Victorin. Mon père irait peut-être ailleurs, et là, les frais les plus dispendieux sont déjà faits.
Quel changement chez ces enfants naguère si respectueux et que la mère avait maintenu si longtemps dans une adoration absolue de leur père, il l'avait déjà jugé.
Sans moi, reprit Lisbeth, votre père serait encore plus ruiné qu'il ne l'est.
Rentrons, dit Hortense. Maman est fine, et elle se douterait de quelque chose. Et comme dit notre bonne Lisbeth, cachons-lui tout, soyons gais.
Victorin, vous ne savez pas où vous conduira votre père avec son goût pour les femmes, dit Lisbeth. Pensez à vous assurer des revenus en me mariant avec le maréchal. Vous devriez lui en parler tous ce soir. Je partirai de bonne heure exprès.
Victorin entra dans la chambre.
Eh bien, ma pauvre petite, dit Lisbeth tout bas à sa petite cousine.
Et toi, comment feras-tu? Viens dîner avec nous demain, nous causerons, répondit Hortense. Je ne sais où donner de la tête. Toi, tu te connais aux difficultés de la vie, tu me conseilleras.